La dernière fois, nous avions donc été jusqu'à David, David inclus. Et on s'était arrêté à quelle page? La construction du temple. Nous étions aux prophètes. Voilà. Alors, pour respecter le thème de cette année, et surtout le mode, nous allons lire en entier la Bible pour tous, récit de l'Ancien et du Nouveau Testament aux éditions Teki, pour pouvoir se dire qu'à la fin de l'année, ou peut-être même avant la fin de l'année, nous aurons lu un résumé de la Bible. Et donc, page 44, nous avons donc les prophètes. Et le roi David est un grand prophète et il a été très inspiré. Les psaumes, certains sont dits donc messianiques et plus que messianiques, c'est-à-dire qu'il annonce les souffrances du Messie. Dans le psaume 21, il dit même la prière que le Messie va dire, pour que Jésus va dire sur la croix, en commençant « Eli, Eli, lama sabachthani ». « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors ceux qui sont là, qui ne connaissent, beaucoup connaissaient les psaumes, hein, certains disent « Il appelle Élie ». Non, il n'appelle pas Élie. Et donc il dit « Mon Dieu ». Ce n'est pas Élie, c'est Eloi, ou Elohim. Ou... Et donc, voilà. Et donc, le roi David, en disant ce psaume pour sa propre souffrance, dit la souffrance du sauveur, de celui qui doit venir, de celui qui doit être le roi quand la tribu de Juda perdra le pouvoir, comme selon la prophétie de Jacob, surnommé Israël. Et aussi, David a des inspirations très impressionnantes parce que il a des visions. Il a des visions de la Trinité dans sa vie intérieure ou dans son histoire. C'est-à-dire qu'il va dire « Le Seigneur a dit à mon Seigneur ». Et Jésus va citer le roi David, qui est un homme de guerre, qui est un homme de qui a péché et qui était un homme d'un caractère très très entier, très fort, mais plein avec des moments de grande humilité et de grande prière. Et donc le roi David a des visions. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Dieu a dit à Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit à celui qui va venir et qu'il appelle son Seigneur. Alors c'est pour ça que Jésus dit aux Juifs, mais pourquoi David dit, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est Jésus qui le précise, hein, l'Église catholique n'enseigne que ce qu'elle a reçu. L'inspiration des Écritures, c'est le Dieu qui nous dit, et vous avez des lieux incroyables dans qui authentifient les livres de l'Ancien Testament dans la vie du Christ. Et le Christ donc dit, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, pourquoi David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Eh bien, ça veut dire que le Messie sera plus élevé que le roi David, sera plus que fils de roi. Alors vous allez me dire, mais c'est honorifique, c'est parce que justement il aura le rôle de sauveur. Mais Jésus veut leur faire comprendre qu'il sera plus qu'un homme. C'est le compliment de David, enfin la parole de David signifie que le Messie sera plus qu'un homme. Il sera son Seigneur. Et en plus, il dit le même nom qu'à Dieu. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Vous voyez ? Ce qui nous introduit à la vie intime de Dieu, qui est la Sainte Trinité. Et l'égalité qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, puisque c'est un seul Dieu. C'est la vie intime de Dieu, la Trinité. Et d'autre part aussi, toujours dans cette inspiration extraordinaire, le roi David, dans ses poèmes, dit, dans ses prières poétiques, Il dit, il introduisit son premier-né dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est saint Paul, dans sa prédication, qui est reprise par Silas, puisqu'en effet, l'épître aux Hébreux n'est pas le style véritablement de saint Paul, donc ce n'est pas lui qui l'a écrite. Mais si on l'attribue à saint Paul, c'est parce que c'est toute la théologie et la prédication de saint Paul, dont on retrouve la très grande finesse et qui a été prise en note, comme saint Marc a pris en note la prédication de Pierre. Et il dit, quand il introduisit son premier-né dans le monde, il demanda à ses anges, adorez-le. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Or, le premier-né dans le monde, c'est le Messie, c'est le Sauveur, c'est son Fils, c'est qui? C'est Dieu, c'est... Voyez-vous? Tout cela, c'est... nous indique que Dieu, depuis longtemps, annonce ce qu'il va faire. C'est ce qu'on appelle les prophéties. Et de manière prophétique, parmi les juges que nous avons déjà vus, la reine Esther ou Judith sont des figures de la Vierge Marie. Ce sont des figures de la femme forte qui sauve le peuple. Vous voyez ? La reine Esther va, mais on va le voir parce que c'est, je pense qu'elle fait partie de, comment dire, on la placera si elle a été oubliée dans ce petit résumé. Donc page 44, les prophètes. Si vous vous souvenez, le royaume a été divisé parce que le fils de David est un homme, enfin le fils de Salomon, pardon, le petit-fils de David est un homme extrêmement rude, qui veut beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, mais Dieu avait dit à David que son royaume serait divisé à cause de ses péchés. C'est une épreuve, pas du temps de son fils Salomon, mais après. Et voilà ce qui arrive. Les 12 tribus d'Israël vont être séparées en 2 et 10. Le royaume du nord, le royaume qui garde le nom générique d'Israël, et le royaume du sud, qui est le royaume légitime, qui est de la tribu de Juda et de Benjamin. Le vrai roi du peuple hébreu, c'est celui qui est descendant de David, donc de la tribu de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Mais comme le temple de Jérusalem est construit autour de l'Arche d'Alliance, du coup, le roi des 10 tribus schismatiques, séparé, fait un temple en Samarie avec le dieu Apis pour revenir à l'erreur d'Aaron qui avait eu tellement peur du peuple qu'il avait fait construire le veau d'or. Et donc les prophètes n'auront de cesse de reprocher au général qui a pris le titre de roi dans le nord d'avoir scindé la religion alors que il était là pour punir les péchés des hommes, les péchés du roi David, pour montrer l'indignation divine. Mais il n'était pas censé diviser la religion. Voyez. Donc des prophètes du Nord reprochent aux Samaritains d'avoir créé une religion parallèle, avec des morceaux de la religion de Moïse et des morceaux païens, tandis que les prophètes du royaume légitime, les 2 petites tribus qui étaient restées, les encourage et leur reproche leurs péchés. Et ça pendant des siècles, voyez. Et le rôle de la Vierge Marie dans le Nouveau Testament, surtout dans ces 2 ou 3 derniers siècles, c'est de nous faire ces mêmes reproches à l'image des prophètes de l'Ancien Testament, mais avec bien sûr la douceur du Nouveau. La plupart des rois de Juda et surtout d'Israël, les rois de Juda, c'est le royaume du sud légitime, et les rois d'Israël, c'est le royaume du nord, oublièrent qu'ils étaient les lieutenants de Dieu. Oh, un peu royaliste, un peu monarchiste. Voilà. Donc, ils tiennent lieu de ceux qui défendent la religion. Ils se préoccupèrent bien plus des richesses de ce monde que des trésors spirituels. C'est pourquoi Dieu envoya à son peuple les prophètes pour parler en son nom. La mission essentielle des prophètes consiste à proclamer bien haut cette vérité. Le Seigneur est le Dieu d'Israël, et Israël est le peuple élu de Dieu. Vous devez garder la foi. Dieu les choisit et les envoya, parfois malgré eux, parfois c'était des paysans. Oui, vous avez un ange qui arrive devant un paysan, c'est comme Gédéon, hein, le juge du peuple, avant qu'il y ait des rois, des hommes providentiels qu'on appelait les juges. Voyez? Mais Judith a été une juge. Voyez? Et donc, et qui ensuite retournaient à leur champ. Dieu les choisit et les envoya parfois malgré eux pour dire au roi et au peuple leur infidélité, leur rappeler leur vocation, annoncer des châtiments et promettre le pardon si on revenait au Seigneur. Ils parlaient malgré les persécutions, ils annonçaient qu'un jour tous les peuples entreraient dans le royaume de Dieu, qui serait établi par le Messie, dont la figure se précise de plus en plus de prophète en prophète. Ils disent « Toutes les nations connaîtront le Messie ». Eux, ils sont juifs, déjà ils s'entendent pas, on leur dit « Votre religion sera connue dans le monde entier ». Alors aujourd'hui, 3 décembre, nous sommes dans la fête de Saint-François-Xavier, et donc Saint-François-Xavier a évangélisé le Japon, si je ne me trompe pas, l'Inde, le Japon, et il n'est pas rentré en Chine, je crois, hein. Mais il a été dans une île du Japon, et en face de la Chine, il est mort en priant pour la Chine. Et donc Saint-François-Xavier, l'image même de Saint-François-Xavier, nous fait penser à Notre-Dame d'Akita, qui, d'après des... Je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais d'après des sources à 90% sûres, peut-être que c'est une fake news, une fausse nouvelle d'Internet, mais je ne le pense pas parce que la personne qui m'en a parlé connaît une personne qui connaît la religieuse, donc il n'y a que deux intermédiaires, donc ça devrait être juste. Eh bien, la religieuse d'Akita, en 1973, donc son ange lui apparaît, elle croit que c'est l'âme de sa sœur, et l'ange lui dit « Non, non, je suis un ange », et il l'introduit à parler avec la Vierge Marie à travers la statue en bois qui était un ex-voto, un remerciement de la supérieure du petit institut eucharistique d'Akita, puisqu'elle avait été guérie en priant et en buvant de l'eau de Lourdes, et elle avait fait sculpter, suivant une image qu'elle avait, des images qu'on lui avait présentées, elle avait choisi l'image de la Dame de tous les peuples, une apparition reconnue par l'Église le 31 mai 2002 à Amsterdam, avec la demande de la corédemption, la Vierge Marie debout sur l'orbe terrestre, avec une grande croix derrière elle et les mains écartées, comme à rue du Bac. Et là, elle lui dit le 13 octobre 1973, « Si les péchés continuent, il y aura un châtiment tel qu'il n'y aura pas eu depuis le déluge. Par le feu, une grande partie de l'humanité va périr, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles, de telle manière que les vivants environt les morts. » Et, les hôtels et les églises seront saccagés, les prêtres qui me sont dévots seront moqués, et les cardinaux et les évêques se dresseront les uns contre les autres. Voilà le message d'Akita. Et donc, elle pleura 101 fois cette statue, jusqu'en 1980-81, et l'évêque du lieu va reconnaître l'apparition. Eh bien, il y a quelques semaines, il y a un mois, l'ange qu'elle a vu lui est réapparu et lui a dit « Couvrez-vous de cendres et priez le chapelet. Et vous, devenez comme un enfant et offrez-vous en sacrifice. » La pauvre, elle a 85 ans. Ça veut dire que depuis 1973, elle ne s'est pas assez sanctifiée, sans doute, vous voyez. À 80-85 ans, l'ange lui dit d'en faire plus. Alors, voilà. Mais c'est beau, voyez-vous, d'avoir encore des prophètes, des hommes, des femmes qui nous annoncent qu'il faut faire pénitence. Tout cela pour préparer la venue de la grâce en nos âmes et plus particulièrement aussi les événements historiques qui sont quand même l'incarnation. Alors, les prophètes du royaume d'Israël. Alors, dans Jérémie, chapitre 1, verset 9, il était dit à Jérémie, « Le prophète est la bouche de Dieu. » Et dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 7, « Il est la sentinelle de Dieu qui veille sur Israël. » En ce qui concerne les prophètes du royaume du Nord, Akab était un roi Enfin, les rois d'Israël, environ toutes les 2-3 générations, ils se trucidaient. Hein, donc, il n'y a pas eu de continuité dans la royauté d'Israël et du Nord. C'était des généraux qui se faisaient tuer régulièrement. Achab surpassa en impiété tous les rois d'Israël. Il épousa Jézabel, une princesse païenne, qui faisait des sacrifices humains. Hein, au passage. À son exemple, le roi adora les Baals et leur bâtit des temples. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dieu envoya le prophète Élie. Vous connaissez Élie? Élie. Alors là, le prophète Élie, c'est du feu, hein, c'est le cas de le dire. Pour lui annoncer que durant 3 ans, il ne tomberait ni rosée ni pluie sur la terre. Vous voyez? Sans réchauffement climatique, hein, rien à voir. Il n'y avait pas de diesel à l'époque, il n'y avait pas assez de vaches pour faire du CO2 et tout ça. Bon. Le prophète se cacha ensuite près du torrent de Kérit. Des corbeaux envoyés par le Seigneur lui apportaient sa nourriture. Mais le torrent sécha. Pour fuir la colère d'Akab, Élie s'est retiré au désert sur les bords d'un torrent. Dieu le nourrit miraculeusement par un corbeau qui lui apporte à manger. Donc on voit des représentations du prophète Élie, on voit un corbeau près de lui, c'est Élie. Voilà. Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Parce que là, il n'y avait plus d'eau. Donc, le corbeau pouvait éventuellement se gorger d'eau et lui recracher de l'eau. Non, c'est pas pratique. Donc, il va dans une ville païenne. À l'entrée de la ville, il y a une veuve qui ramassait du bois. N'oublions pas que c'est la sécheresse depuis 3 ans. Et puis, un peu à cause du prophète Élie. Hein. C'est-à-dire que il va pas demander à Dieu d'avoir pitié du peuple. Il est là pour leur annoncer 3 ans de punition divine. Et la veuve était là et prenait du bois avant de mourir de soif et de faim. Élie lui dit, apporte-moi un peu d'eau et un morceau de pain. Oui, c'est la famine dans tout le pays. Et là, elle reconnaît que c'est un homme austère, habillé pauvrement, avec un manteau de prophète. C'est la chasuble actuellement, hein, dans la messe. Elle répondit, ah, je n'ai pas de pain cuit. Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et là, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'elle rajoute, je vais aller le faire cuire, faire un petit pain que je partagerai avec mon fils, et nous mourrons après, puisque nous n'avons plus que ça. Et là, Élie lui répond, ne crains rien, ni la farine ni l'huile ne s'épuiseront tant que durera la famine. Alors, elle revient chez elle, et la fiole d'huile et le pot de farine, à chaque fois qu'elle l'utilisait, ne se vidait pas. Et c'est les miracles de la Bible, hein. Ben oui, enfin, quand vous avez le Saint-Curé d'Ars dans les années 1880, qui prie et le pétrin du boulanger qui ne s'épuise pas, quand vous avez le Saint-Jean Bosco avec un sacristain qui prend, deux paquets de noisettes pour une centaine d'enfants pour le goûter. Et c'est un miracle vraiment très gratuit puisque il baignait les noisettes et à chaque fois qu'il sortait des noisettes du petit sachet, il y en avait toujours. Et à Turin, dans les appartements de Saint-Jean Bosco, il y a encore sous une vitrine 3 noisettes du paquet miraculeux. Oui. Mais si vous voulez, et bien sûr la multiplication des pains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y a toujours eu de l'huile. Et à chaque fois qu'elle versait, la fiole ne se vidait pas. Voilà. Et Jésus va authentifier la vie d'Élie et le miracle d'Élie en disant, il y avait beaucoup de veuves en Israël au moment de la sécheresse et de la famine. Et il est allé auprès d'une païenne. Vous voyez ? Il y avait beaucoup de lépreux. Et Élie est allé auprès, ou Élisée, enfin le général syrien est allé auprès d'un prophète. Il était païen. Donc Dieu signifie au peuple juif, maintenant, je vais donner ce que vous deviez garder comme foi à tous les autres peuples. Comme je vous en ai déjà fait des signes lorsque des païens se sont convertis et ont été plus croyants que des Hébreux. Et donc cette veuve païenne, qui finit par croire dans le Dieu d'Élie, hein, va être sauvée par le prophète Élie. Et elle va l'accueillir. Alors, il ne vous parle pas ensuite de ce qui s'est passé. Quelque temps plus tard, avec ce que nous allons lire, le fils unique de cette veuve meurt. Elle va le voir, parce qu'entre-temps, la famine s'est arrêtée, et elle va sur le mont Carmel, où Élie a choisi sa résidence, a élu sa résidence, et il envoie Ézéchiel, son serviteur, son disciple, pour lui demander « Tout va bien ?» Et la veuve, elle dit « Tout va bien, je viens lui dire bonjour. » Ah bon ? Et là, arrivée près d'Élie, elle se jette à ses pieds, elle prend ses jambes, elle dit « Je ne partirai pas avant que tu aies prié ton Dieu, mon fils est mort. » Je t'ai nourri, tout ça, j'ai prié ton Dieu, et mon fils est mort. Et là, Ézéchiel essaye de prendre la femme, et Élie lui dit, laisse-la, Dieu ne m'a pas révélé la raison pour laquelle elle venait. Donc ça veut dire que c'est important. Et donc ensuite, Élie prend son bâton, et part dans la maison de la veuve, et là, le fils est mort, mort de mort. Il dit, mais non, il est mort depuis que quelques heures, donc il n'est pas vraiment mort. Vous savez, c'est comme la jeune fille qui est mort depuis 2 heures pour Jésus. Alors, du coup, le bon Dieu a fait ressusciter un jeune homme qui est mort de la veille. Puis comme ça suffisait pas, parce qu'on va vous dire, oui, mais enfin, vous savez, dans des morgues, il y en a qui se réveillent et tout ça. Alors, du coup, c'est Lazare qui était décomposé. Alors, lui, c'est plus difficile. Mais bon. Et donc, là, il était mort depuis quelque temps seulement. Et Élie, et Élisée aussi, son disciple, hein, c'est les deux seuls morts ressuscités dans l'Ancien Testament, hein. Donc c'est un grand prophète hein, qu'il a obtenu ce miracle. Il se met sur l'enfant, nez sur nez, bouche sur bouche, et il lui souffle dans la bouche pour le réchauffer. Vous me dites, mais qu'est-ce que c'est ? Ça peut pas réveiller un mort. Mais c'est le souffle de vie. Et il tourne, il prie, il revient, il se met sur lui, il met main sur main, pied sur pied, et il se réduit à l'enfant. Vous voyez ? Et c'est prophétique, c'est-à-dire que Dieu se réduit à nous, à notre nature, pour nous redonner la vie. Et il tourne, et il tourne, et il tourne, et à un moment, l'enfant ressuscite, éternue, et Élie le prend, le remet debout, alors il était mort, donc il est non seulement ressuscité, mais guéri, et il le rend à sa mère. Et il dit, avec l'austérité du prophète Élie, « Ne pleure plus !» Voilà, et là, elle dit, très bien, donc, elle reprend son fils et tout va bien. Mais c'est assez impressionnant, Le récit lui-même est d'une franchise absolument incroyable. Alors, qui est Élie ? Ah là, c'est un délice. La famine désolait le pays depuis 3 ans. Élie alla vers Akab et lui dit, « Veux-tu que le fléau cesse ? Rassemble sur le mont Carmel le peuple et les prêtres de Baal. » Je crois Baal, c'est Moloch. Enfin bon, c'est les statues creuses en bronze où on jetait des bébés. Hein. En ce moment, en l'honneur des dieux de Carthage, il y a une exposition au Colisée à Rome, où ils ont reproduit une statue de Baal. Ces statues qui, dans un film de cinéma muet des années 20-30, la même statue, avec un œil, tout ça, qui pue la franc-maçonnerie à 20 000 km. Il faut faire 4 fois le tour de la Terre. Hein. Eh bien, figurez-vous, enfin, c'est le diamètre de la Terre. Eh bien, elle est dans les allées du Colisée, là où les chrétiens étaient suppliciés. Une grande statue comme ça, où le ventre s'ouvrait, n'est-ce pas, le torse s'ouvrait et on jetait les enfants dedans. Alors Élie dit, « Viens avec les prêtres de Baal de ta femme Jézabel. » Élie dit au peuple, « Si Yahvé est Dieu, si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est Dieu, allez à lui. Si c'est Baal, allez à Baal. » Le peuple ne répondit rien. Parce que eux, ils étaient superstitieux, disaient, on a notre Dieu officiel et puis on a Baal au cas où. Hein. Et Élie reprit. Je suis resté seul des prophètes de Yahvé. Et il y a 450 prophètes de Baal. que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu sur un autel de pierre. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de Yahvé, le Dieu qui répondra par le feu, celui-là est Dieu. Rendez compte un peu. Si Satan avait eu l'autorisation de faire brûler le taureau. Donc ça veut dire que Élie était sûr de lui et sûr de l'inspiration divine. Ne faites pas ça. Sauf si vous êtes vraiment sûr d'être un prophète et qu'un prêtre vous est tamponné derrière, parce que maintenant il y a des prêtres catholiques. Donc si vous prenez pour un prophète, parlez-lui, dites-lui ce qui vous arrive et tout. Tout le peuple répondit, c'est bien. Les prophètes de Baal prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, car votre Dieu dort ou il est parti en vacances. » Mais il n'y eut ni réponse ni signe d'attention. Et même ils se font des scarifications pour le sang coule et leur Dieu réponde. Et vous avez donc l'autel en pierre, le bois, le taureau dessus, et voilà, et le taureau n'est pas consumé par le feu. Alors Élie dit au peuple, « Approchez-vous de moi !» Ils prirent 12 pierres, bâtirent un autel au nom de Yahvé, les 12 pierres au nom des 12 tribus d'Israël, et fit un fossé autour de l'autel. Il coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il dit par 3 fois, « Versez de l'eau en abondance !» Ils prennent des jarres, mettent de l'eau, de l'eau, de l'eau, et l'eau est dans les rigoles partout, le bois est complètement imprégné d'eau, bon. L'eau coula autour de l'autel et remplit le fossé. Alors Élie s'avança et dit, Yahvé, je suis, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, exaucez-moi, afin que ce peuple reconnaisse que vous êtes le seul vrai Dieu. Alors le feu consuma l'holocauste, le taureau. Donc des éclairs tombent, la foudre tombe. C'est pas rien, pour rien que les païens considéraient que la foudre, tout ça, c'était Jupiter, Zeus, le pouvoir qui nous fait peur. Les pierres ont été détruites par le feu. Et la terre même, il y a eu un cratère à la place. Les assistants s'écrièrent, « C'est Yahvé qui est Dieu !» Et Élie leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, et que pas un n'échappe !» Ils les saisirent et en massacrèrent 450, c'est-à-dire tous ceux qui étaient là. Donc ils les transpercent par l'épée, et puis après, pour être bien sûr qu'ils soient morts, ils les balancent du haut du Mont Carmel. Vous savez, Notre-Dame du Mont Carmel, la douce Vierge Marie. Eh bien, Élie fait, « Je me tiens debout devant le Dieu des armées, et je brûle de zèle. » Pour le Dieu des armées. Et c'est pour ça que les saintes carmélites, la tête penchée, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, voyez, et de la Sainte Face, qui offre sa vie en sacrifice et qui meurt dans les souffrances du Christ en croix à 24 ans. Mais la douce Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui vous donne des pétales de rose, eh bien, le motif des carmes et des carmélites, c'est le bras d'Élie avec le glaive. Qui tue les faux prophètes. Mais qui tue qui? Ceux qui tuent les enfants. Ceux qui brûlent des enfants. Les ennemis de l'innocence. Les ennemis de l'amour. Les ennemis de Dieu. Le vrai péché. La méchanceté gratuite. Et c'est une raison. Vous savez, vous avez des mystico-dingos qui actuellement... des faux, des vrais, qui vous disent l'avortement. Attention, le bon Dieu nous reprochera l'avortement. On n'en parle presque plus, on vous parle de la PMA, de la GPA. Oui, mais l'avortement. L'avortement, c'est comme pour les prophètes de Baal. Alors, il y en a qui avortent par faiblesse, parce que, alors par un viol, parce qu'ils sont dans la misère et tout ça. C'est, vous savez, les personnes dans la misère donnaient leurs enfants auparavant. Vous aviez un tourniquet chez les religieuses, Et l'hiver, elle tournait plus souvent le tourniquet, n'est-ce pas? Et un bébé, vous aviez un tour. Et quand une famille ne pouvait pas garder leur bébé, ne pouvait pas le donner en adoption officiellement, où ils avaient honte, ou c'était une bourgeoise qui avait eu un enfant sans son mari, eh bien, ils déposaient, elle gardait le bébé, elle partait en province, et puis elle revenait, et elle laissait le bébé sur le tourniquet, n'est-ce pas? Et les religieuses tournaient régulièrement. Et vous voyez un petit bébé. Parfois, il y avait une carte coupée, voyez, ou un objet. Et si ça allait mieux, les personnes revenaient, et si l'enfant n'avait pas été adopté entre-temps, il présentait l'autre moitié ou disait quel objet avait accompagné l'enfant pour essayer de le reprendre. Mais on les confiait aux religieuses. Mais on les tuait pas. Au point que les rois de France, à force d'avoir des enfants à gauche, à droite, eh bien, c'était devenu presque une coutume. Mais jamais il y en a un qui a avorté un enfant, d'ailleurs. Avec toutes leurs concubines, leurs maîtresses, leurs favorites, ils dotaient leurs bâtards, hein. Vous voyez? C'est comme le prince de Monaco. Lui, des bâtards, on sait plus combien il y en a. Il y a ceux qu'on connaît, il y a ceux qu'on connaît pas. Eh ben, il les a jamais fait avorter, hein. C'est impressionnant, hein, le prince de Monaco, là. Il a beau être tout ce qu'il est. Alors peut-être que les femmes qui avaient un enfant avec lui voulaient surtout pas avorter, parce que c'était l'assurance d'une bonne dotation, mais enfin voilà. Et alors, donc, le prophète Élie, ben, il tue ses 450 prêtres. Et donc, la Jézabel est folle de rage et veut faire tuer le prophète Élie. Alors, ils envoient 50 soldats au pied du mont Carmel. Et là, Élie dit, « Seigneur, défends-moi contre la colère de cette reine. » Et là, vous avez le feu du ciel qui descend à nouveau et qui crame les 50 soldats. Vous avez 50 soldats qui arrivent par-dessus le marché et qui voient les 50 grillés et qui font... ils n'ont pas eu le temps de dire quoi que ce soit, ils sont grillés. Alors le lieutenant des 50 autres qui arrivent, lui, de loin, il dit « Élie, Élie, on n'a rien fait, on obéit aux ordres, on te fera rien, on t'accompagnera auprès du roi. » Et là, Élie descend, les 50 soldats le touchent pas, hein, un grand respect du prophète Élie, et ils arrivent. Et il y a une des plus grandes prophéties de l'Ancien Testament où Élie dit à Akaz, mais demande un miracle. La sécheresse s'est arrêtée, vous avez un petit nuage qui est arrivé, puis un grand nuage, et il y a eu la pluie. Et là, Akaz dit, mais je ne tenterai pas le Seigneur, je ne demanderai pas un miracle. Mais si moi, prophète Élie, je te dis de demander un miracle... Non, surtout pas, je veux pas tenter Dieu. Eh bien, il vous sera donné un miracle. Puisque vous ne demandez pas un miracle en haut dans le ciel ou au plus profond des mers, une femme enfantera un fils. Et vous l'appellerez Emmanuel. Et là, lui, il est concerné en tant qu'homme. Mais je sais pas si vous vous rendez compte qu'une des annonces de Jésus est dans une querelle entre le prophète Élie et un roi d'Israël qui a épousé une païenne. Voyez. Et là, Élie, inspiré par Dieu, au lieu d'annoncer une catastrophe, cette fois-ci, il annonce le salut. Hein, une femme enfantera un fils. Et vous l'appellerez Emmanuel, Dieu parmi nous, quand même. Voyez. Impressionnant. Alors, Akab, le pauvre, va mourir, mangé par les chiens, sa femme, Jézabel, tombera de la fenêtre et sera aussi mangée, enfin voilà, c'est terrible. Et Élie aura un disciple qui s'appelle Élisée. Et au bout d'un certain temps, son disciple Élisée le suit, et vous avez d'autres prophètes qui vivent comme des moines, déjà à l'époque, hein, mais qui sont en général mariés, c'est des petits villages de prophètes en quelque sorte, ou pas mariés. Et ils disent à Élisée, tu sais que ton maître, Dieu va le prendre aujourd'hui. Et Élisée dit, oui, je sais, ça va. Hein, ça me fait suffisamment de peine, c'est bon. Ils marchent, et là, ils sont près du Jourdain, je crois. Et Élie dit, reste de ce côté-là. Non, je te suivrai. Bon, Élie prend son manteau et frappe le sol et le Jourdain s'ouvre. Comme du temps de Josué, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. On est dans les années 700. Josué, c'était dans les années 1100 avant Jésus-Christ, 1150. Pour Élie seul, hein, le Jourdain s'arrête. Il passe à pied sec. Élisée le suit. Il obéit pas à son maître. Et là, de l'autre côté du Jourdain, vous avez un char de feu avec des chevaux de feu, des anges qui se présentent de cette manière-là, qui prennent et Élie est emporté vers le ciel. Et Élisée est là et dit, Élie, mon maître, mon seigneur, tu m'abandonnes. Je t'ai demandé de me donner au moins ton esprit avant de partir. Et Élie a dit, ben, le Seigneur décidera. Et alors qu'il part, emmené par des anges de feu, et on dit qu'Élie reviendra à la fin des temps avec le patriarche Énoch, qui a disparu, hein, avant Noé, d'une manière miraculeuse. Élie et Énoch. Et donc, où sont-ils actuellement, puisqu'ils sont vivants? Élie est toujours vivant, figurez-vous. Énoch est toujours vivant. Saint Thomas d'Aquin dit, selon la tradition orale, qu'il serait au jardin d'Éden, hein, rendu inaccessible par un chérubin, mais qui, pour Élie et Énoch, vivent de l'arbre de vie. C'est joli, hein, c'est Saint Thomas d'Aquin qui donne cette hypothèse. Et là, Élie, en fait, Dieu exauce Élisée et le manteau d'Élie tombe. Alors, il récupère le manteau, il repasse, il est devant le Jourdain. Et là, il prend le manteau d'Élie et il frappe le sol. Et là, ben, rien ne se passe. Et il dit, Seigneur, la prière d'Élie aurait-elle disparu? La vertu d'Élie aurait-elle disparu? Il frappe une seconde fois et là, waouh, le Jourdain s'arrête. Et il passe le Jourdain, à pied sec. Et les autres disent, ça, il a la vertu d'Élie maintenant. Et donc, quand Élisée va aussi aider une veuve ou une femme qui perd son enfant et va obtenir la résurrection de cet enfant. Et quand on va enterrer Élie, on dépose son corps et le mort à côté, la tombe d'à côté, ressuscite. Tout. Il dépose le corps d'Élisée. Et la tombe à côté, le mort qui avait été enterré, sort du tombeau, sort de terre, vivant. Oh là, c'est. Oh. Et c'est amusant parce que dans le Nouveau Testament, vous avez des saints et des saintes, hein, au tombeau desquels vous avez eu des miracles impressionnants. Hein. On dit, mais il y a moins de miracles de nos jours. Oui, mais encore la même chose, vous avez le Padre Pio qui était stigmatisé, qui a guéri des aveugles, qui lisait dans les âmes. Ah oui, mais c'est pas spectaculaire de connaître la vie des gens. Hein? Bon, ben c'est quand même pas mal, hein, comme le Saint Curé d'Ars au confessionnal, le Padre Pio au confessionnal. Eh bien, voyez-vous, vous avez Marthe Robin. Elle est vénérable et elle a ni mangé ni bu pendant 53 ans. Thérèse Newman, qui a ni mangé ni bu pendant, je sais plus, 15 ans, 20 ans, qui était stigmatisée. Marthe Robin, elle était tout simplement complètement paralysée, en pleine souffrance tous les vendredis. Et les nazis ont enfermé sous observation dans un hôpital Thérèse Humann pendant 15 jours. Hein. Et ils ont constaté, n'a pas mangé, n'a pas bu. Et Hitler a eu le rapport, paraît-il. Voilà. Et ils l'ont relâché. Voilà ces prophètes de l'Ancien Testament, Élie et Élisée, qui étaient absolument impressionnants.